Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo. Au lendemain de son retour au pouvoir, Napoléon Ier sait que la meute des alliés se rassemble pour envahir la France. Il prend les devants et dès le 15 juin 1815, il attaque Charleroi, occupé par l'avant-garde prussienne. La surprise est totale. Dans la matinée du 16 juin, l'empereur envoie un billet au maréchal Ney, le pressant de se positionner sur le site des Quatre Bras. Un mouvement aussi prompt et aussi brusque isolera l'armée anglaise et je désire que vos dispositions soient bien faites pour qu'au premier ordre, vos 8 divisions puissent marcher rapidement et sans obstacle sur Bruxelles, écrit-il. Ney se met en route mollement, si bien que Wellington fait occuper les Quatre Bras par le prince d'Orange. Pendant ce temps, Napoléon s'apprête à combattre les Prussiens à Ligny. À 15h, Soult envoie à Ney le message suivant, je vous ai écrit il y a une heure que l'empereur devait attaquer dans la position qu'il a prise entre les villages de Saint-Amand et de Baye. En ce moment, l'engagement est très prononcé. Sa Majesté me charge de vous dire que vous devez manœuvrer sur le champ de bataille de manière à envelopper la droite de l'ennemi et à tomber à bras raccourcis sur ses derrière. Cette armée est perdue. Si vous agissez vigoureusement, le sort de la France est entre vos mains. Mais Ney ne bouge pas. Il faut que l'empereur prenne lui-même la tête de la vieille garde pour que Ligny soit emporté. Le général prussien Blücher est renversé sous son cheval. Il échappe par miracle à la capture. Le soir, les Prussiens sont en retraite. Ils ont reçu une sacrée bonne fessée, note Wellington. Le 17 juin, à Fleurus, Napoléon décide de se rendre aux Quatre Bras. Avant de partir, il ordonne à Grouchy, « Pendant que je vais marcher aux Anglais, vous allez vous mettre à la poursuite des Prussiens. » Vous avez sous vos ordres les corps Gérard et Vandamme, la division Test, les corps de cavalerie Pajol, Excelmans et Millau, en tout 33 000 hommes, ceux qui manqueront le lendemain à Napoléon pour faire de Waterloo une victoire. Le 18 juin, à 11h30, la grande batterie de la garde impériale sonne à 3 reprises. La bataille de Waterloo débute. Le plan de Napoléon est connu par une note au maréchal Soult, dictée le matin même. Une fois que toute l'armée sera rangée en bataille, à peu près à 1h après-midi, au moment où l'empereur donnera l'ordre au maréchal Ney, l'attaque commencera pour s'emparer du village de Mont-Saint-Jean, où est l'intersection des routes. À cet effet, les batteries de 12 du 2e corps et du 6e se réuniront à celles du 1er corps. Ces 24 bouches à feu tireront sur les troupes de Mont-Saint-Jean et le comte d'Erlon commencera l'attaque en portant en avant sa division de gauche et en la soutenant, suivant les circonstances, par les autres divisions du premier corps. Le deuxième corps s'avancera pour garder la hauteur du comte d'Erlon. Les compagnies de sapeurs du premier corps seront prêtes pour se barricader sur le champ à Mont-Saint-Jean. Suivant à la lettre le début de cet ordre, Ney demande à 2 régiments de cuirassiers de charger. Ils se heurtent à la cavalerie anglaise. Drouet d'Erlon prend pied sur le chemin d'Onin et gagne la crête couverte de seigle et de blé. Anglais et Écossais par leurs tirs précis, brisent leur élan. Wellington lance contre l'infanterie les dragons écossais qui pénètrent facilement les rangs français. C'est la débandade. Les bataillons refluent en déroute. Les dragons chargent jusqu'à l'artillerie. Napoléon intervient en personne pour endiguer la progression ennemie. Tout est à recommencer. 4000 hommes sont perdus pour rien. Au matin du 18 juin, Grouchy écrit à Napoléon depuis Gembloux : « Ce soir, je vais être massé à Wavre et me trouver ainsi entre Wellington, que je présume en retraite devant votre majesté, et l'armée prussienne. J'ai besoin d'instructions ultérieures sur ce que votre majesté désire que je fasse. Le pays entre Wavre et la plaine de la Chise est difficile, coupé et en partie marécageux. J'arriverai facilement à Bruxelles, avant tout ce qui sera arrêté à la Chise. Daignez, sire, me transmettre vos ordres. Je puis les recevoir avant de commencer mon mouvement de demain. » À 13h30, Soult envoie une dépêche qui est remise à Grouchy à 17h devant Wavre. En ce moment, la bataille est engagée sur la ligne de Waterloo, en avant de la forêt de Soignes. Ainsi, vous manœuvrez pour rejoindre votre droite. Nous croyons apercevoir le corps de Bülow sur les hauteurs de Saint-Lambert. Ainsi, ne perdez pas un instant pour vous rapprocher de nous et nous rejoindre et écraser Bülow, que vous prendrez en flagrant délit. La bataille échappe à l'empereur. Ney lance maintenant ses charges furieuses et légendaires. Les tirailleurs anglais de la première ligne sont balayés par la vague de fer et de chevaux, mais ceux de la seconde ligne résistent. Et 5000 dragons, hussards et lanciers ennemis réussissent à contenir la cavalerie française qui est rejetée au bas de la côte. Napoléon constate l'erreur du prince de la Moscova qui paraît si exalté que certains parlent de pure folie. La bataille est désormais qu'une succession de charges insensées. À 7 reprises, Ney charge, à 7 reprises, son élan est brisé. Il est contraint de reculer. Napoléon prend alors la tête de la garde et monte vers le plateau au moment où les premiers Prussiens apparaissent sur le champ de bataille. L'empereur détache immédiatement une partie de ses forces dans leur direction. 30 000 Prussiens repoussent les Français. La cavalerie anglaise lance des charges magistrales. Napoléon trouve refuge au centre d'un des carrés du 1er régiment des grenadiers de la garde. Il est sombre et livide. La débâcle est complète. Les soldats marchent sans ordre. Ils se heurtent, fuyant devant la cavalerie prussienne. Dans la nuit, en arrière des quatre bras, autour d'un feu, près de quelques grenadiers, l'empereur regarde vers Waterloo. Il est debout, immobile, les bras croisés sur sa poitrine. Il contemple le désastre. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama, avant de retrouver Emmanuel pour la chronique littéraire. Un jour, 3 livres. Ce sont des chants militaires qui vont nous accompagner aujourd'hui. Pour commencer, le chant des partisans, parole écrite par Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon en Angleterre le 30 mai 1943 sur une musique d'Anna Marley. Il est interprété pour la première fois par Germaine Sablon. Nous l'écoutons. Oh,
on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire qui va nous être présentée par Emmanuel.
Bonjour à tous.
Bonjour Emmanuel. Alors ce ne sont pas trois mais quatre livres aujourd'hui, quatre livres d'un même éditeur, en l'occurrence Albin Michel, et nous commençons par la première histoire de Frédéric Gros.
Au 1er siècle après Jésus-Christ, fasciné par les discours enflammés de Paul de Tarse, Théoclia, une jeune aristocrate de la colonie romaine d'Iconium, décide de rompre ses fiançailles, de suivre l'apôtre et de faire de sa virginité un acte de résistance. Sauvée miraculeusement du bûcher, puis des fauves sur le point de la dévorer, s'auto-baptisant malgré la menace, elle devient l'étendard brandi par le peuple des femmes. Iconoclaste, subversive, elle devient une figure gênante pour l'Église naissante et les chefs de la communauté, sentant le danger qui monte, réagissent. C'est une société bien phallocrate à l'époque. De cette vie de combat, il en est resté un récit, considéré comme le premier récit chrétien à avoir circulé par écrit. Mais la vie et les combats de Théoclia ont, été occultés.
La première histoire, c'est signé Frédéric Gros, c'est publié chez Albin Michel. Requiem pour la Dame Blanche d'Éric Fouassier, toujours chez Albin Michel.
Nous nous retrouvons sur le front de la Somme en automne 1916. Alors que les soldats succombent par milliers dans les tranchées, la mort frappe de façon plus singulière ailleurs, mais avec tout autant de cruauté. C'est d'abord une chanteuse célèbre d'avant-guerre, la Dame Blanche, soupçonnée d'espionnage et sommairement exécutée par des justiciers improvisés. C'est ensuite Albert Soule, un as de l'aviation française, retrouvé mystérieusement poignardé par une baïonnette allemande au retour d'une mission aérienne, des roses rouges répandues dans le cockpit de son appareil. 15 ans plus tard, 6 personnages étroitement liés à ces événements se retrouvent réunis à nouveau. Dans un huis clos oppressant, derrière les murs d'une grande maison isolée et bloquée par la neige, ils vont devoir affronter le poids du passé et leur propre démon intérieur. Voici un superbe roman policier qui a d'ailleurs obtenu le prix du Festival de Polar à Sens, qui s'appelle le prix L'Escargot Noir.
Requiem pour la Dame Blanche d'Éric Fouassier, c'est publié chez Albin Michel. Les Amants de la France Libre de Jean-Yves Pitoun, toujours chez Albin Michel.
Voici un roman mettant en scène deux hommes, une femme dans le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale, réunis par l'amitié et l'amour. Jeannine, jeune veuve de guerre, dirige une filière d'aviation à travers les Pyrénées. Robert, tout juste 20 ans, a fui ces montagnes de Kabylie pour rejoindre la résistance. Mike, pilote américain engagé dans la RAF, a miraculeusement...
La Royal Air Force, la RAF, a miraculeusement
survécu aux tirs allemands. Nous allons les suivre d'Algérie à Londres, en passant par les réseaux de la résistance de Toulouse et du Pays Basque.
Les Amants de la France Libre de Jean-Yves Pitoun aux éditions Albin Michel. Et nous terminons cette chronique par Retour à Passaya d'Aura Moreno Duran. C'est aux éditions Albin Michel encore.
Lorsqu'elle apprend que sa grand-mère est mourante, Adiran quitte Madrid pour retourner dans la maison de son enfance à Passaya, village de pêcheurs sur la côte basque espagnole. Est-ce pour élucider le mystère d'une tragédie qui hante sa famille depuis la guerre civile ou pour renouer avec sa propre mère qui vit toujours là? tandis qu'un dialogue hésitant, tourmenté, reprend entre les trois femmes, se décide une généalogie traversée par les secrets et les non-dits. Ruth, la grand-mère, exilée très jeune pendant la guerre. Adriana, la mère, qui a toujours tué les circonstances de la naissance de sa fille. Adiran, enfin, qui fuit sa propre petite de 5 ans. À travers ces trois femmes, c'est l'histoire mouvementée du Pays Basque qui nous est retracée dans ce roman.
Retour à Pasaya, d'Aora Moreno Duran. C'est publié aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette chronique. Nous vous retrouvons la semaine prochaine dans cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisé. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec le chant du départ, écrit en 1794 par Marie-Joseph Chénier et mis en musique par Étienne-Nicolas Méhul. Il est joué pour la première fois lors de la bataille de Fleurus, l'un des grands épisodes militaires de la Révolution, le 26 juin 1794.
Thank you.